avec Jean-Simon Buis.
Bon matin, messieurs, dames. Il est 5h pile, on est déjà vendredi 6 décembre 2019. Une autre semaine qui part comme ça, très rapidement. Et mine de rien, il reste un, deux, trois week-ends pour faire votre magasinage des fêtes. Ça passe vraiment, vraiment vite cette année. Plus que d'habitude, mais ça dépend toujours de la perception. Là, mais je trouve que cette année, là, on n'a pas le temps de voir le temps passer. On va prendre un grand respire et les fêtes vont déjà être terminées. À la météo, qu'est-ce qui vous attend dans les prochains jours? C'est pas mauvais comme nouvelle, honnêtement. Aujourd'hui, c'est un maximum de moins 4 qui est attendu avec des nuages en majorité. Quelques percées de soleil, mais également 30% de risque d'averse de neige. Des vents du sud-ouest de 20 km/h, mais rien de suffisant pour parler d'un refroidissement éolien trop important. Demain, samedi, maximum de moins 7, alternance de soleil et de nuages. Dimanche, ça c'est plate parce qu'on prévoyait du soleil depuis le début de la semaine. Là, ce serait des nuages, mais un petit moins 3, donc une température assez douce. Et à long terme, ça va être spécial la semaine prochaine. Jusqu'à maintenant, lundi, on prévoit 3 degrés avec un mélange de neige et de pluie, et mardi, 8 degrés. C'est ce qu'on pourrait atteindre au mercure, ce qui est évidemment très au-dessus des normales de saison. Et en ce moment, pour le réveil, on a moins 6 degrés à Québec. Dans l'actualité, j'ai pas le choix de commencer avec la commémoration des 30 ans de la tuerie de Polytechnique. Je trouve ça important de toute façon d'en parler. Le 6 décembre 1989, il y a 14 femmes qui perdaient la vie dans une tuerie complètement insensée. Alors que Marc Lépine, le tireur, entrait vers 16h à Polytechnique, la tuerie en tant que telle a débuté aux alentours de 17h10. Et aujourd'hui, avec le recul, avec toutes les informations qu'on a, au fil du temps, et c'est assez bien raconté dans le Journal de Québec ce matin, il y a eu une espèce d'évolution un peu dans la manière dont on a décrit les événements. C'est sûr que sur le coup, d'abord, on se questionnait un peu sur les motifs de Marc Lépine. Au départ, on parlait d'une attaque historique. On n'était pas certain si c'était un tireur fou. En 2009, on voulait parler d'un attentat terroriste. Il y a beaucoup d'options qui ont été évaluées pour qualifier l'attentat du 6 décembre 1989, la tuerie. Finalement, ce qu'on a opté de faire cette année, il y a une place à Montréal qui est la place du 6 décembre 1989, c'est de faire une annotation à la plaque pour parler d'un attentat antiféministe. Et c'est ce qu'on a fait hier. On est allé modifier la plaque en tant que telle. Donc maintenant, on peut y lire. Ce parc a été nommé en mémoire des 14 femmes assassinées lors de l'attentat antiféministe survenu à l'École Polytechnique le 6 décembre 1989. Et quand on regarde les faits, mais force est d'admettre que c'est vraiment ça qui s'est produit, alors que Marc Lépine, dans une classe, avait fait séparer les hommes et les femmes, demander aux hommes de sortir avant d'abattre froidement les femmes qui étaient sur place, sur son corps, suite à la tuerie, après qu'il se soit enlevé la vie. On avait trouvé une lettre dans laquelle il indiquait que les féministes avaient pourri toute sa vie. Alors, je pense qu'aujourd'hui, en 2019, il fait aucun doute quels étaient les motifs de Marc Lépine. Et c'est un devoir de mémoire qu'on a 30 ans plus tard. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs du côté de l'Assemblée nationale. Alors qu'une cérémonie spéciale qui s'est déroulée du côté du Salon Rouge. Il y avait bon nombre de politiciens de l'Assemblée nationale qui étaient présents, de même que les familles, les gens qui étaient impliqués il y a 30 ans dans la tuerie de Polytechnique. Et ça a été un moment touchant. D'abord, on a remis une médaille posthume à tous les membres de la famille, une médaille de l'Assemblée nationale pour chacune des 14 victimes de la tuerie du 6 décembre 1989. Je vous fais entendre le premier ministre François Legault qui, d'ailleurs on sent son émotion dans sa voix, rappelle un peu les événements.
Je me souviens qu'il y a 30 ans, 14 Québécoises se sont fait voler leur avenir. Je me souviens qu'il y a 30 ans, 14 femmes ont perdu la vie parce qu'elles étaient des femmes.
Il y a Pascal Bérubé aussi, le chef intérimaire du Parti québécois, qui a bien mis en mots aussi l'espèce de moment charnière, de moment qui a marqué un peu les esprits. C'est normal parce que c'est la tuerie la plus importante de l'histoire du Québec. Et ça visait un groupe particulier de personnes. Alors pour lui, c'est un peu une perte d'innocence. C'est un peu un moment charnière dans l'histoire du Québec.
Il y a eu au Québec un avant et un après Polytechnique. Le 6 décembre 1989 sonna la fin de notre insouciance collective, de notre sentiment absolu de sécurité en bon peuple pacifique et tranquille que nous sommes. À la dure, nous avons pris conscience qu'il existait ici aussi des zones d'ombre, d'une profondeur insoupçonnée.
Hier, c'était également, coïncidemment, le discours du trône à Ottawa pour le nouveau gouvernement de Justin Trudeau. D'ailleurs, dans les prochains instants, on va en parler davantage. Mais le premier extrait que je vais vous faire entendre, c'est la gouverneure générale, c'est elle qui prononce le discours du trône, qui a, elle aussi, pris le temps de commémorer les 30 ans de l'attentat de Polytechnique.
Une journée où tous les Canadiens s'arrêtent pour rendre hommage à ces femmes qui ont été tuées
en raison de leur sexe. Le gouvernement fera davantage pour lutter contre la violence sexiste au Canada, en s'appuyant sur la stratégie contre la violence fondée sur le sexe et en collaborant avec des partenaires pour élaborer un plan d'action national.
Alors voilà, c'était il y a 30 ans que ces 14 femmes perdaient la vie à l'école polytechnique. Des blessures qui sont encore vives pour plusieurs des victimes, plusieurs des femmes qui ont été blessées à ce moment-là. On a parlé hier matin à Nathalie Provost, notamment, qui a été une des blessées lors de la fusillade de Polytechnique. Puis pour elle, dépendamment des années, mais surtout à l'approche du 6 décembre, à l'approche des commémorations, c'est quelque chose qui est toujours très difficile à vivre. Je vous parlais du discours du trône à Ottawa. Bon, c'est un peu le retour des affaires courantes du côté de la Chambre des communes. On risque de suivre ça un petit peu plus de façon serrée, compte tenu du fait qu'on a un gouvernement minoritaire qui va un peu gouverner à la pièce. Hein, il va falloir, à chaque fois qu'il y a des questions importantes, que Justin Trudeau et son gouvernement aient cherché l'appui d'un ou l'autre des partis d'opposition. Et le premier test pour le gouvernement de Justin Trudeau dans un contexte minoritaire, ben, c'était le discours du trône. Parce que si, par hasard, tous les partis avaient décidé de voter contre le discours du trône, ben, du même coup, le gouvernement de Justin Trudeau aurait tombé puis on serait tombé en élection générale. Pas sûr que ça nous aurait tenté bien, bien. On vient d'en sortir. Heureusement, c'est pas le scénario qui s'est produit. Le discours du trône va passer grâce à l'appui du Bloc québécois. Oui, il va avoir le chef François Blanchet qui a confirmé qu'il y a suffisamment de points dans le discours du trône présenté hier qui plaisent au Bloc québécois pour qu'il l'appuie de façon officielle. Par contre, ça n'a pas été nécessairement le même son de cloche des autres partis. Je vais vous faire entendre tous les chefs dans quelques instants, mais quelques éléments qui ressortent du discours du trône. Évidemment, le discours du trône, c'est assez symbolique. Hein? C'est les grandes orientations du gouvernement pour les années suivantes. Mais bon, évidemment, la lutte au changement climatique, c'est un des éléments forts dont on avait conscience dans la campagne électorale de Justin Trudeau. Il y en a été question. On a parlé de réduire un peu la facture pour la classe moyenne et pour les contribuables en général. On veut réduire le fardeau fiscal. On veut s'attaquer à certains fardeaux dans le monde de la consommation aussi, notamment les frais de téléphonie cellulaire qu'on veut réduire de 25%. Pas moi qui va chialer, pas vous non plus. Je sais pas exactement de quelle manière on pourrait s'y prendre, mais réduction de 25% des frais de téléphonie cellulaire. On veut trouver un moyen également de hausser les prestations de la sécurité de la vieillesse. On veut bannir des armes de poing dans certains cas dans les villes, s'attaquer davantage aux armes à feu de type semi-automatique aussi. Comme je vous disais, toutes les questions d'environnement. Alors, je vous fais écouter d'abord Yves-François Blanchet, puisque c'est grâce à lui que Justin Trudeau va pouvoir commencer à gouverner. Alors, Yves-François Blanchet qui explique quelques-uns des points dans le discours du trône qui ont pu lui plaire.
Plusieurs éléments. Le premier chèque aux agriculteurs sous gestion de l'offre est un élément que moi je retiens. La volonté d'améliorer le pouvoir d'achat des aînés est un élément que je retiens comme étant favorable. Et oui, il y a quelques éléments avec lesquels on est d'accord, même la volonté exprimée. Il y a même dans la section sur la lutte au changement climatique, il y a de belles mesures.
Par contre, du côté des deux autres partis d'opposition qui sont représentés à la Chambre des communes, c'est-à-dire les conservateurs, le NPD, bon, les Verts, on les compte pas vraiment, ils ont pas vraiment leur mot à dire pour la balance du pouvoir, ben, ça a pas été un discours du trône qui a été très, très bien accueilli. D'abord, Andrew Scheer, des conservateurs, le point sur lequel il s'est attardé, lui, c'est le fait qu'on n'a pas beaucoup parlé de transport de matières énergétiques, notamment, d'unité nationale, du transfert des hydrocarbures, des pipelines, tout ça, dont, évidemment, les provinces de l'Ouest aimeraient avoir de bonnes nouvelles.
Non, parce qu'il n'a pas nommé le secteur énergétique et aussi il n'a pas reconnaître le fait que c'est son propre pièce de législation qui a causé le problème. Et je crois que les Canadiens ont besoin de voir un signal qu'il a pris une leçon de l'élection et c'est clair qu'il n'a pas.
Jacques Médicic du NPD aussi a signalé son désaccord par rapport au discours du trône. Alors, finalement, ce sera seulement le Bloc québécois qui va l'appuyer. Alors, un petit mot de M. Singh sur le discours du trône.
C'est clair que ce n'est pas suffisant pour régler les problèmes que les gens font face. En matière de crise climatique, encore des belles promesses, mais sans des actions concrètes, sans des cibles audacieuses, des cibles basées sur la science.
Et on a tendu la main aux autres partis là, du côté de Justin Trudeau en disant qu'il y avait des bonnes idées dans tous les partis politiques. Alors évidemment, dans un contexte minoritaire, on est plus conciliant que dans un contexte majoritaire où est-ce qu'on a tout simplement pas besoin de l'appui des partis d'opposition pendant 4 ans. Alors on comprend que le ton est un peu plus conciliant de la part du nouveau gouvernement qui va devoir comme ça négocier à chaque fois pour essayer de demeurer en poste. Grosse journée du côté de la politique municipale aussi hier, alors qu'on votait le budget 2020 et ce qu'on surveillait de près, évidemment, parce que, bon, le budget 2020, ça touche l'ensemble des projets à Québec, mais le projet qui fait le plus couler d'encre et de salive dans les derniers mois, c'est le projet structurant de transport en commun, le fameux projet de tramway. Et c'est donc hier, en votant le budget, qu'on votait du même coup le projet d'investissement quinquennal, là, donc sur 5 ans, de quelle manière on va investir certaines sommes. Et pour ce qui est du tramway et du réseau structurant de transport en commun, c'est des sommes de 1,9 milliard de dollars qui vont être investies, des sommes importantes. C'est donc dire que hier, on jouait en quelque sorte, c'était un peu le moment charnière à partir duquel on pouvait donner ces sommes-là et commencer à les investir pour faire avancer le projet structurant de transport en commun. Point de non-retour, c'est une bonne question à poser. Est-ce qu'on peut revenir en arrière maintenant que ces sommes-là ont été votées, maintenant qu'on va commencer à les injecter un peu partout pour réaliser le projet structurant de transport en commun? Votre réponse vaut la mienne. Sauf que c'est une étape importante pour l'administration Labeaume dans ce projet-là. Ça fait absolument aucun doute. Juste vous résumer un petit peu là, concernant le budget. Il y a des élus de l'opposition officielle qui ont voté contre le budget. C'est Raymond Dion et Jean Rousseau. Du côté de Québec 21, on n'a pas voté en tant que tel contre le budget. Raymond Dion, là, c'est en raison du projet de biométhanisation. Il y a certains détails sur lesquels je ne vais pas nécessairement m'attarder. Mais je vous parlais hier notamment de la question de l'achalandage, la hausse de l'achalandage dans le projet de tramway qui inquiète notamment l'opposition officielle. Parce que quand on compare avec les chiffres qu'on avait à l'époque où est-ce qu'on discutait d'un projet de SRB, quand on regarde la somme qui va être investie en plus pour le tramway, ben c'est pas tout à fait clair exactement les gains, si les gains vont être suffisants pour justifier un investissement de la sorte. Alors, on est revenu à la charge hier parce que Labeaume, avant hier, n'était pas capable de répondre à cette question-là des journalistes. Il n'était pas capable de dire pourquoi il n'y avait pas vraiment de concordance ou qu'on n'était pas capable de dire hors de tout doute que ça valait la peine. Et hier, ben c'est Rémi Normand qui est rendu un peu le bras droit du maire qui est allé répondre aux questions des journalistes et qui avait ceci à dire par rapport à la hausse de l'achalandage.
En fait, il n'y a rien à expliquer. C'est qu'on est sur des bases complètement différentes. Alors, on peut bien essayer d'amalgamer des choses comme ça, ça ne donnera jamais les résultats escomptés. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, là, il va rester au bout du compte qu'il y a toujours des gens qui vont critiquer le projet.
Mais en tout respect, M. Normand, quand on remet les deux tableaux...
C'est pas les mêmes bases, c'est ce que je vous ai dit au départ.
C'est quoi les bases? C'est pas sur origine d'estimation dans les deux cas? C'est pas les mêmes bases.
On avait un projet régional à l'époque. Là, on a un projet qui est Ville de Québec seulement. Alors, essayez de comprendre qu'on n'est pas sur les mêmes bases. On peut pas comparer des pommes avec des oranges.
Mais on prenait Québec, c'était la donnée Québec, et là, on a la donnée Québec.
On n'est pas sur les mêmes bases. C'est pas les mêmes bases.
Je comprends, sauf que pour l'ancien projet qui est un investissement moindre, visiblement, il y avait de plus grandes hausses d'achalandage où il y avait des statistiques qui ressemblent à un investissement qui est pourtant beaucoup plus onéreux.
Non, c'est pas du tout le même projet. Alors, on avait un équipement sur roue qui était en théorie sur une plateforme, là, oui. Mais pour lequel on passait pas dans la Haute-Ville. Donc, on pouvait pas capter l'achalandage qu'il y a actuellement en Haute-Ville. Alors, c'était différent comme projet. On peut pas parler des mêmes tracés de référence entre les deux projets.
Bon, alors, je sais pas si c'est tout à fait clair, la réponse de M. Normand, mais grosso modo, lui, il dit que ça se compare pas les deux projets, bien qu'on avait des détails assez clairs, même plus clairs que ça à l'époque du SRB, là. C'est assez flou, hein. Pour certains aspects du projet de tramway, il manque encore plusieurs données. Bon, est-ce que la réponse de Rémi Normand a satisfait l'opposition? Pas vraiment, d'après Jean-François Gosselin, le chef de l'opposition officielle.
J'ai pas encore la preuve que le projet de tramway va apporter pour 2 milliards de plus de valeur que le défunt projet de SRB. Je ne sais pas si vous a convaincu, mais moi, il m'a aucunement convaincu avec ses explications.
Alors voilà, c'est où est-ce qu'on en est avec le tramway pour les prochaines étapes. Bon, j'imagine qu'on aura un suivi régulier de la part de l'administration municipale pour qu'on soit en mesure de savoir qu'est-ce qu'il y en est réellement là, pour ce qui est de l'achalandage. On attend aussi d'autres informations sur les problèmes de trafic que ça va encourir, les travaux et par la suite. Là, vous rappelez que cette semaine, on a appris la quantité d'entraves qu'il y aurait à la circulation pour ce qui est des intersections, plusieurs intersections par lesquelles on pourra même plus passer en automobile, d'autres pour lesquelles les virages à gauche vont être carrément interdit aussi. Alors, je pense pas qu'on a terminé d'en entendre parler, mais sachez qu'à partir de maintenant, les sommes d'1,9 milliard pourront être distribuées. Les contrats vont pouvoir être finalement distribués pour faire avancer le projet structurant de transport en commun de la Ville de Québec. 5h14, courte pause et on jase de sport.
FM 93. Pour être à la fine pointe de l'information, c'est Bouchard en parle.
Il va falloir faire des détours et si vous vous demandez où passer, vous appelez Régis Labeaume, il va vous le dire.
Moi, je suis le roi des shortcuts à Québec, alors appelez-moi, je vais vous dire par où passer.
Arrêtez-le. Là, après le projet tricoté, la petite passe au gouvernement, là, il va barrer 148 intersections en Haute-Ville, puis il dit appelez-moi. Moi, où tu veux passer? Arrêtez-le, quelqu'un.
Bouchard en parle. Du lundi au vendredi, dès 5h30. FM 93. Ça me parle.
Attention, je vais vous parler de chauffage, de notoriété et de gros rabais. Je vous parle de JMR, une entreprise qui œuvre en climatisation chauffage depuis 40 ans. En ce moment, procurez-vous une thermopompe dans les meilleures marques comme Amana ou Daikin et écoutez ça. Elle sera installée pour l'hiver et vous commencerez à payer juste en avril prochain. En plus, vous profiterez d'un vrai financement de 60 mois sans intérêt. et même pas besoin de vous déplacer. Appelez JMR et ils viendront regarder vos besoins sur place. Pour un temps limité, visitez jmair.ca.
Humanité, c'est la résidence privée pour aînés atteints de troubles de la mémoire. Un environnement exceptionnel, inspiré des meilleures pratiques mondiales et offrant une qualité de vie sans précédent. Humanité, c'est 12 maisonnées personnalisées où les résidents participent à la vie communautaire. C'est 36 salles thématiques où ils peuvent s'adonner à leur passion. C'est des employés, des bénévoles, des parents et des amis qui s'allient pour leur bien-être. Un milieu de vie unique pour aînés atteints de troubles de la mémoire. Humanité.ca.
Besoin d'une radiographie maintenant? Venez chez Radiologie Mayou. Toujours sans rendez-vous pour les radiographies sans frais, 7 jours sur 7. Et maintenant dans de nouveaux locaux situés au complexe Synaz. Bienvenue dans la plus grande clinique d'imagerie au Québec. Radiologiemayou.com.
En ce froid mois de décembre, donnez bonheur et chaleur. Jusqu'au 5 janvier, rapportez votre manteau d'hiver légèrement usé, peu importe la marque, à votre boutique Chlorophylle. En échange de votre geste du cœur, vous obtiendrez 75 $ pour l'achat d'un nouveau manteau. Chlorophylle s'engage à remettre tous les manteaux récoltés à des gens qui en ont besoin. Parce que nous pensons fermement qu'avoir froid ne devrait pas être une option pour personne. Des conditions s'appliquent, plus de détails en magasin. Une initiative de vos boutiques Chlorophylle et du FM 93 au profit de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.
Il y a des histoires vraies qui sont si fantastiques qu'on pourrait penser qu'elles ont été fabriquées de toutes pièces.
Les derniers vilains, la fantastique épopée des lutteurs de la famille Vachon.
Mad Dog est devenu un héros pour tous les Canadiens. Son succès, c'est que le monde haïssait.
Robert Lepage le décrit comme un film remarquable, drôle, intelligent et touchant. Les derniers vilains, un documentaire aux allures de fiction, aussi loufoque et déconcertant que l'ont toujours été la lutte et les Vachons. Au cinéma dès le 6 décembre.
En 2019, levons glorieusement notre fourchette pour rendre hommage au bon goût de chez Ashton. À nos folies, nos gourmandises, nos gâteries, puis à tous ceux qui, comme nous, sont amateurs de la poutine qui fait la fierté de Québec. Chez Ashton, bon à tout coup depuis 50 ans.
Marie-Mé, une nouvelle ère, un nouveau spectacle. À la salle Albert Rousseau de Québec. Marie-Mé, une artiste incomparable, un spectacle impressionnant, avec ses plus grands succès revisités et ses nouvelles chansons. Les 6 et 7 mars, 24 et 25 avril, 28, 29 et 30 mai, billets sur marimé.com.
Maboutiqueradio.ca. Toujours des rabais de 50%.
50% au Belga Resto Bar, Liquida Sport, Planetix, Restaurant Parmesan, Québec Brou, 1-800 God Junk, Spa Infinima, Mega Fitness Gym, Extermination Plus et Hors d'hiver.
En vedette cette semaine, Sport Opus Sainte-Foy et sa grande sélection d'articles de sport neufs et usagés. Vous trouverez des cartes cadeaux de 50 $ à 25 $.
Et découvrez le musée miniature de l'architecture Ludovic Amin-Land à Fleur-de-Lys. Obtenez 2 admissions à moitié prix.
Maboutiqueradio.ca.
L'amorce avec Jean-Simon Buy. Lundi au vendredi, 5h, au FM 93.
5h18 dans l'amorce. Merci de vous joindre à moi. On est vendredi le 6 décembre 2019, à l'aube de ce week-end. Voici ce qui vous attend. Côté météo, aujourd'hui, maximum de moins 4, 30% de risque d'averse de neige. Donc, du temps doux qui se poursuit. Demain samedi, un peu plus froid, maximum de moins 7 avec alternance de soleil et de nuages. Dimanche, retour des nuages avec un maximum de moins 3. Et la semaine prochaine, c'est du temps bizarre qui nous attend un peu. Lundi, 3 degrés, neige ou pluie. Et mardi, 8 degrés avec de la pluie. Ça, c'est très, très au-dessus des normales de saison, alors qu'elles sont présentement à moins 3. Là, on va être quasiment 11 degrés si ça se poursuit avec de la pluie. Question de nous peut-être faire tomber dans la slush un petit peu. Là. On a un petit tapis blanc. On va mettre bien de la slush la semaine prochaine. Ça va devenir brun. Et présentement, on a moins 6 degrés à Québec. Bon matin, Dan.
Salut, Jean-Simon. Est-ce que 8 degrés, c'est considéré comme l'automne des Indiens?
On l'a rendu là, écoute. Là. Mais... c'est parce que je pense que, si, en théorie, si on avait une séquence de 2-3 jours là, ouais, avec des températures plus que 10 degrés au-dessus des normales de saison, sans précipitation, là, on pourrait encore appeler ça un été des Indiens.
Eh ben, OK, ouais, mais on se rendra pas.
En théorie, non. Okay. On va avoir une journée bizarre de 8 degrés en décembre. Après ça, on redescend à moins 10 le lendemain. Anyway, okay. On va parler de hockey un peu. Dan, il y a deux façons de voir les choses pour le Canadien, d'après moi.
Oui.
On peut dire qu'ils ont une seule victoire dans les 10 derniers matchs.
Oui, ça c'est vrai.
Oui, c'est vrai. Mais ce que je vais te dire aussi est strictement vrai. Dans les 2 derniers matchs, on a une fiche de 500.
C'est vrai aussi.
C'est pas mauvais, hein?
Oui.
Puis là, ils ont perdu contre l'Avalanche hier.
Ouais, 3-2. C'est dommage parce que en fin de match, le Canadien a tout essayé sauf marquer un but. Mais il faut savoir que ce match-là était 3-0 Colorado. Donc, si le Canadien avait commencé à la même heure que l'Avalanche, donc 19h, il serait donné un peu plus de chances de gagner. Mais l'Avalanche, c'est une maudite bonne équipe de hockey. Mais c'était les débuts dans la Ligue nationale pour Caden Primeau, le jeune gardien de 20 ans du Canadien. Puis, il n'a pas été extraordinaire, puis il n'a pas été si mauvais que ça. Okay. Il a eu des bons flashs. Puis d'après moi, quand il va regarder les buts qu'il a donnés, il va dire « Oh, God, celle-là, j'aurais dû l'arrêter. » Tu sais, fait mais c'est correct, c'est un kit de 20 ans. On commencera pas à dire « Ouais, ils ont perdu, c'est de la faute à Primo. » Non, là, on peut se calmer deux minutes, prendre une grande gorgée de café, puis analyser ça dans l'ensemble, puis dire que le Canadien, finalement, a pas joué un si mauvais match, mais comme c'était 3-0 Colorado, ça a été plus tough de revenir dans le match. Ce qui retient l'attention dans ce match-là, d'abord, moi, j'ai trouvé Jeff Petrie horrible hier. Puis, je suis un des grands fans de Jeff Petrie. J'ai même dit il y a quelques semaines qu'il était devenu meilleur que chez Weber. Mais je pense qu'il l'a entendu, pas de moi, mais je pense c'était un peu unanime à la grandeur du Québec. Tout le monde dit « Ouais, Petrie est meilleur que Weber. » D'après moi, ça lui a monté à la tête. Puis, depuis ce temps-là, il est moins bon que Weber. Mais hier, il n'a pas été bon. Il a été mauvais sur le but accordé par le Canadien en désavantage numérique au moment où l'Avalanche avait un joueur de moins. Donc, le Canadien était en avantage numérique. Il a fait une entrée de zone atroce. Exactement ce qu'on enseigne aux jeunes Pee-wee à ne pas faire, c'est ce qu'il a fait. Puis il s'est fait contourner sur le but de Landeskog comme s'il n'avait jamais joué dans la Ligue nationale. Donc Petrie, hier, ça n'a pas été un grand match pour lui. Mais ce qui retient l'attention, Jean-Simon, c'est la mise en échec dans les premières minutes du match de Zadorov, gros défenseur russe de 24 ans, qui fait 6-6, 235 livres, à l'endroit de Jesperi Kotkaniemi, qui fait 6-2, 198. Tu vas me dire, crème, il est assez planté quand même.
Ouais.
Mais il avait l'air d'une allumette à côté de Zadorov. Il l'a mis en échec, mais renversé sur la patinoire. Et ça, c'est un peu cheap en soi quand tu prends ta jambe et tu essaies de l'envoyer sur la patinoire. Ouais. Mais c'est pas clair qu'il fait ça de façon intentionnelle. Ça prend beaucoup, beaucoup de reprises vidéo pour voir si le coup était vraiment salaud. Le résultat, c'est que Kotkaniemi est tombé direct sur la tête.
Ouch.
Donc, il a quitté le match, il n'est pas revenu. Il ne sera pas à Madison Square Garden ce soir lorsque le Canadien va affronter les Rangers. Ouais. Ça ressemble à une commotion, en effet. Puis, juste avant d'aller à la pause, je veux te parler d'Alexander Radulov, qui hier, à Dallas, a été laissé de côté. Radulov, on s'en souvient, a joué pour le Canadien. Après ça, il a signé un contrat de 5 ans avec les Stars. Ouais. Les deux dernières saisons, ça a très bien été. 72 points. Mais là, cette année, il y a 15 points en 30 matchs. Il s'enligne pour une saison de 41 points. Puis l'entraîneur, Montgomery, était pas content de lui dans les derniers matchs hier. Il l'a envoyé réfléchir sur la galerie de presse. Et les Stars ont quand même gagné contre les Jets 3-2 en prolongation.
Merci beaucoup, Dan. À tout de suite.
Ouais.
On va rester un petit peu dans le monde du hockey, mais aussi de l'art, hein, parce que hier, il y avait le dévoilement de la troisième œuvre d'art qui va être placée sur la place Jean Béliveau dans les prochains mois. Vous savez qu'il y a déjà celle de Jean Béliveau qui a été dévoilée. Il y a aussi celle des frères Stachny. Dans les deux cas, les réactions ont été relativement mitigées parce que c'est des styles d'art un petit peu expérimentaux. Pour Jean Béliveau, il appelle ça une œuvre anamorphique. Je pense qu'il faut vraiment se placer du bon angle pour voir Jean Béliveau. Sinon, vous voyez différents modèles d'avions de chasse de différents pays selon votre perception. Et pour ce qui est des frères Stachny, il y en a qui ont apprécié le concept de jeu de hockey de table et d'autres qui ont trouvé que ça faisait un peu carton cheap. Alors ça dépend vraiment de votre perception. Là, cette fois-ci, l'œuvre d'art représente Joe Malone, le joueur des Bulldogs de Québec. Les Bulldogs de Québec ont été la seule équipe à remporter la Coupe Stanley pour la ville de Québec, faut le noter, au début du 20e siècle, au début du siècle dernier, en 1912 et en 1913. Et Joe Malone était un joueur qui détient encore à ce jour le plus grand nombre de buts dans un match, c'est-à-dire 7. Ça n'a pas été battu depuis ce temps-là. Évidemment, le hockey était bien différent à l'époque. Et donc, l'œuvre d'art en question, évidemment, je vais essayer de vous la décrire du mieux que je peux. C'est Joe Malone avec un bulldog. C'est une œuvre qui est faite avec des couches de métal. Donc, c'est comme un peu stratifié. On ne voit pas clairement le visage de Joe Malone. Et encore une fois, on joue un petit peu sur les angles. C'est-à-dire que quand on se tasse sur le côté, ça se peut que la statue disparaisse pratiquement. Et ça donne que le surnom de Joe Malone à l'époque, c'était le fantôme. Donc, c'est un petit peu ça le concept de l'œuvre. Je vous fais écouter le sculpteur qui est derrière la sculpture de Joe Malone. Il s'appelle Stéphane Laforge. Il explique un petit peu ce qu'il souhaitait faire.
Mon intention avec cette œuvre-là, c'était et c'est vraiment de réussir à faire une œuvre qui soit autant attrayante et intéressante pour les initiés, disons les gens du milieu de l'art, mais aussi et surtout pour les non-initiés, les gens qui ne sont pas nécessairement connaisseurs d'art actuel, d'art contemporain. J'ai toujours eu ce souci-là et dans un contexte d'art public, c'est encore plus intéressant de l'avoir.
Régis Labeaume est très satisfait du concept, puis il a rappelé encore une fois que de son côté, il voulait pas faire des bronzes, il voulait faire quelque chose d'attrayant touristiquement pour que les gens se déplacent venir voir ces statues-là.
Un gars qui aime le sport comme moi, là, moi je me déplaçais pour venir voir ça. Alors moi, et c'est pour ça qu'on voulait des œuvres d'art, on voulait pas des bronzes au départ. On voulait que ce soit très bien, pas seulement pour ceux qui aiment le sport. Fred l'a bien exprimé, il faut que ce soit assez accessible, c'est très distinctif. Moi, je me déplaçais pour venir voir ça. Et surtout quand les signes seront là, ça va être spectaculaire.
Sans grande surprise, ben Jean-François Gosselin n'est pas tout à fait d'accord, n'a pas vraiment aimé le concept et lui a rappelé le fait qu'il aurait aimé ça avoir simplement des bronzes.
La mère l'avait promis pour les chevreuils, souvenez-vous, puis non, c'est jamais devenu un attrait touristique. En pleine saison touristique au mois de juillet, là, j'ai jamais rencontré un touriste en train d'admirer chevreuil. Mais écoutez, je suis capable d'apprécier les œuvres d'art, je suis capable d'apprécier tout ce qui se fait. Mais on aurait fait des choix différents.
En tout cas, personnellement, je l'aime bien, la statue de Joe Malone. Je trouve qu'elle est super originale. Je pense que ça va avoir un beau look. La seule chose qui me déplaît un peu par rapport à ces concepts-là, c'est le fait que ce sera pas uniforme. Là. C'est vraiment des concepts très, très différents. Ça va être un peu éclectique sur la plage Jean-Béliveau. Si vous souhaitez voir la photo, elle est disponible sur la page Facebook du FM 93. Vous pourrez d'ailleurs commenter. Jusqu'à maintenant, c'est encore une fois assez mitigé les réactions des gens par rapport à cette sculpture. Il est 5h26. Merci d'avoir été avec moi dans l'amorce toute la semaine. On se reparle lundi matin, 5h10. Si là, c'est Bouchard en parle. Passez un bon week-end. Ciao.
Les meilleurs moments sont disponibles maintenant sur fm93.com. Bouchard en parle commence après cette courte pause.